Merci, Monsieur Fournier. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Nous ne nous quittons plus. Merci encore à Monsieur Fournier, aux organisateurs, d'avoir organisé cette rencontre, cette conférence. Et merci à mes hôtes, bien entendu. Alors, comme vous l'a dit Monsieur Fournier à l'instant, je lui ai envoyé il y a quelques semaines six annexes, six fichiers Word, de 2, 3 pages chacun, qui compléteront donc ce que je vais vous dire. Parce que je n'aurai pas le temps de tout vous dire, et vous les lirez tranquillement après la conférence, quand vous le voudrez. Ce sont des fichiers thématiques, et puis aussi tout simplement une bibliographie raisonnée et une biographie raisonnée de la vie et l'œuvre de Dostoïevski. Alors, pour cette conférence, j'ai choisi le principe suivant. Je vais décliner l'œuvre de Dostoïevski sur le plan chronologique. Je vais vous donner quelques repères chronologiques de sa vie. À chaque fois, donc à chaque date ou période, je renverrai vers l'œuvre phare de la période et ses thèmes. Je vais aller assez vite au début parce que voilà, le temps est quand même limité, même si j'ai du temps, pour en arriver au sujet qui m'intéresse le plus et qui me semble le plus intéressant pour vous, et qui sont traités dans les derniers grands romans de Dostoïevski, c'est-à-dire Les démons, surtout Les démons et Les frères Karamazov. Vous voyez, je pars des dates, je vais vers le texte, et du texte du roman, je vais vers les thèmes, les principaux thèmes qui sont abordés dans ces romans. Alors, merci d'être venu, d'abord. Venir à une conférence sur Dostoïevski, enfin, Dostoïevski est une œuvre intimidante, et je vais aussi essayer de vous décontracter vis-à-vis de cette œuvre, et puis de vous donner envie d'aller plus loin, de le lire, de l'aborder d'une manière ou d'une autre, très librement, peut-être pas par le dernier grand roman, Les Frères Karamazov, mais si j'avais à vous conseiller pour entrer dans l'œuvre, eh bien commencer par les petites œuvres du début de sa carrière et de sa vie, les petites œuvres qui sont marquées au coin un grand écrivain qui s'appelle Nicolas Gogol. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, Dostoïevski, c'est facile à retenir. Dostoïevski est né en 1821 et il est mort en 1881, voilà, 60 ans. Bon. Sa vie créatrice va commencer à la fin des années 40 et se poursuivre jusqu'à quasiment sa mort, puisqu'il termine Les Frères Karamazov, son grand roman, son dernier, quelques mois avant son décès. Au milieu de sa vie se place un événement politique, social et économique considérable dans l'histoire de la Russie. Vous voyez, en 1861, le tsar Alexandre II abolit le servage et enclenche un cycle court, mais très important, de réformes structurelles. Donc, la première réforme, c'est la libération des paysans du servage. La deuxième, c'est la réforme de la justice, la réforme de l'administration et la réforme de l'armée. Et il a une fenêtre de 4-5 ans pour agir, 61, 65, 66. Ensuite se dessine une nouvelle petite réaction, hein, une contre-politique, mais qui n'effacera pas l'ampleur des réformes. Alors Dostoïevski va se trouver là au milieu, sa vie est partagée en deux, et ces réformes vont avoir beaucoup d'importance pour lui. Il va d'une certaine manière les approuver, les soutenir. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais commençons par le commencement. Quelques mots de son enfance, adolescence, très rapidement. Il est donc né en 1821 à Moscou, pas à Saint-Pétersbourg. Son père était médecin des pauvres, membre de la petite noblesse, mère aimante, joyeuse. Et l'enfance est heureuse. Enfance heureuse. Et Dostoïevski, adolescent, apprend quasiment par cœur les poèmes de Pouchkine. Il lit avec passion les romans de Walter Scott, la poésie de Karamzine, grand poète du XVIIIe siècle, et les nouvelles de Gogol. Gogol, c'est un peu son prédécesseur. Il a 15 ans, il a 16 ans, pardon, lorsqu'il perd sa mère en 1837. De 38 à 43, il fait des études à Saint-Pétersbourg, donc déménagement interne, à Saint-Pétersbourg, à l'école du génie. Donc il va l'être pendant un certain temps, à devenir fonctionnaire du ministère des armées. de 1838 à 1843, il y a 5 ans d'études, vous voyez, études supérieures, ce qui est absolument exceptionnel à l'époque. Et en 1839 se place un événement familial et politique dans sa vie. En 1839, donc il a presque 18 ans, son père est assassiné par ses serfs. Son père était un homme assez dur et il avait, au fur et à mesure de sa carrière de médecin, accumulé un petit pécule qui lui a permis d'acquérir des terrains, des terres et des demeures dans la campagne de la Russie centrale. Et il était assez dur avec ses paysans, qui n'étaient pas encore des hommes libres, hein, donc on dit des serfs. Un jour, il est littéralement assassiné par une quinzaine d'entre eux. L'enquête est assez vite bouclée. C'était un phénomène relativement fréquent dans l'Empire. Face à la violence sociale des seigneurs, de certains seigneurs, les paysans répondaient par l'assassinat. Il y en avait environ 60 à 70 par an. Il faut dire que certains seigneurs ne se gênaient pas pour, avec les très jeunes paysannes, par exemple, les filles des paysans, hein, de leurs serfs, hein, avaient tendance un petit peu à abuser de leur situation de pouvoir. Cet événement dramatique va marquer Dostoïevski, qui parallèlement, par le métier de son père, à Moscou puis à Saint-Pétersbourg, affine très tôt, adolescent, une certaine connaissance du tout petit peuple paysan. Ce qui est important, parce que ça va revenir dans l'œuvre, l'image du peuple russe va revenir un peu plus tard dans l'œuvre de l'écrivain et dans ses réflexions. Donc il connaît bien les paysans, et vous verrez tout à l'heure que ça n'empêchera pas de les idéaliser. Mais au départ, il y a une connaissance très fine, très, très concrète, très lucide. C'est curieux, Dostoïevski, il va mêler la lucidité du regard sur le peuple paysan et en même temps une certaine forme d'idéalisation. Alors, à 18 ans, on voit apparaître, il a 18 ans, et chez lui apparaît un sens certain de sa vocation. Vous savez, les grands artistes, quels qu'ils soient, peintres, écrivains, poètes, sont des créateurs et grondent en eux la vocation. Voici ce qu'il écrit à son frère Michel en 1839, donc il a à peine 18 ans. « Je suis sûr de moi, l'homme est une énigme. » Il y a déjà quelque chose qui va marquer toute son œuvre. « L'homme est une énigme, il faut en trouver le mot. Si vous deviez y employer toute votre vie, ne dites pas que vous avez perdu votre temps. Pour moi, je m'attaque à cette énigme, car je veux être un homme. » Il a 18 ans lorsqu'il dit cela. Et un des spécialistes de Dostoïevski ajoute, pour commenter cette première période, il avait le vif sentiment d'une identité de destinée entre lui et tous ses semblables. Autre idée importante. Il se sent un des éléments de l'humanité commune. Et il terminera son grand roman des Frères Karamazov par un message qui consistera à dire « Tout le monde est responsable de tout le monde ». Nous sommes tous coupables pour les autres et nous sommes tous responsables pour les autres. Message qui sonne étrangement aujourd'hui pour nous, à nos oreilles, hein, alors que notre humanité est visiblement en train d'entrer dans une nouvelle période où elle doit se préoccuper de l'ensemble du destin de la planète et de son destin à elle, face aux changements climatiques qui sont sous nos yeux et qui apparemment, en tout cas, s'affirment de plus en plus violemment. En 1844, s'ouvre une première période créatrice, de 1844 à 1849. C'est donc les années, vous voyez, les années 40, la deuxième partie des années 40. Et le très jeune Dostoïevski publie un premier roman qui s'appelle Les pauvres gens, Biedne Liudi. J'ai oublié de vous dire que je vous ferai quand même entendre quelques phrases de russe de Dostoïevski tout à l'heure. Pas beaucoup, mais juste pour vous entendiez la langue elle-même. Je ne peux pas m'en empêcher, qu'est-ce que je vous dise, moi. Je suis quand même professeur de russe à la base. Les pauvres gens, c'est un thème, je ne vais pas en parler longtemps, parce qu'il y a plus important qui va venir tout à l'heure, mais on distingue déjà dans Les pauvres gens, on entend bien le titre, c'est un titre d'un roman social, n'est-ce pas ? Il est préoccupé au départ par la misère, la misère et par aussi les rapports de pouvoir, l'écrasement du petit par les puissants. Bon. Mais chez Dostoïevski, au contraire de Gogol, Gogol traite ce thème-là. Gogol, dans ses nouvelles, met camp des petits fonctionnaires écrasés par le système, par la hiérarchie et par leur propre complexe intérieur. Mais Gogol est un sec, il se moque de ces personnages. Il n'y a pas beaucoup d'humanité chez Gogol. Alors que chez Dostoïevski apparaît quelque chose que j'appellerais le respect, voire la tendresse de l'auteur pour ses pauvres héros. Ça, c'est un son nouveau dans la littérature russe, et qui fait partie d'ailleurs, qui va placer Dostoïevski dans un courant littéraire plus large, le courant de la littérature européenne. Ensuite, en 1846, apparaît, Les pauvres gens, c'était 1845, apparaît une œuvre et un thème très intéressant, que je vais un petit peu développer cette fois. Cette œuvre s'appelle Le Double, en russe Dvainik. Il y a d'ailleurs des pièces de théâtre qui ont été tirées de ce texte. J'en ai vu une remarquable au Théâtre 14 à Paris il y a quelques années. Une bonne mise en scène. Alors, le double, Dostoïevski dira beaucoup plus tard, « Je n'ai jamais rien lancé de plus sérieux que cette idée du double. » Le personnage principal, le petit fonctionnaire Goliatkin, rencontre son double, qui est tout son contraire, et qui finit par l'évincer. Lui, le vrai Goliatkin, qui sera, à la fin de la nouvelle, emmené à la maison des fous. Et là, Goliatkin, c'est la première apparition d'un personnage intérieurement divisé entre ce qu'il veut croire de lui-même et ce qu'il est réellement. Et on retrouvera ce dédoublement chez Ivan Karamazov, l'un des principaux personnages des frères Karamazov, un des trois frères, beaucoup plus tard. Alors, il y a plusieurs manières d'analyser cette œuvre qui est courte, et je vous conseille d'ailleurs volontiers de commencer par cette œuvre-là, du début. Hein. C'est assez court. Il y a le diagnostic psychiatrique dur. Alors, ce diagnostic, c'est schizophrénie compliquée d'une paranoïa avec délire érotomaniaque. Et la bienveillance de ne pas me poser trop de questions sur ce diagnostic, s'il vous plaît. Merci d'avance. Il y a une lecture psychanalytique intéressante. Le conflit entre les idées, les idéaux d'une part, et d'autre part la véritable personnalité morale, faite de pensées et de désirs inavouables, de fautes jamais pardonnées à soi-même. Comme par exemple, dans la nouvelle, la promesse non tenue faite à sa logeuse d'épouser, de l'épouser. Et la promesse n'a pas été tenue. Mais avec la promesse, il a eu un rabiot sur le loyer. C'est pas donc un certain sentiment de culpabilité. Donc le double de Goliath qui incarne les mauvais côtés du Goliath qui est original. Il y a d'autres lectures de l'œuvre. Il y a le double opposé au moi, qui est la personnification de tous les mauvais instincts de Goliath qui, de ce que son âme dissimule de bas et de lâche, de son moi mauvais qu'il veut rejeter. Et Dostoïevski était d'ailleurs à sa manière, lui aussi, ce double-là, dédoublé. Hein. Tout au long de sa vie, Dostoïevski lui-même a agi de telle sorte qu'il n'avait pas ensuite la conscience bien tranquille. Lui qui, par exemple, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, au mois d'août 1863, alors que sa première épouse, il en a eu deux, hein, sa première épouse, Maria Dmitrievna, est gravement malade, qu'est-ce qu'il fait? Il file la plante, là, hein, elle est au lit, hein. Il la plante, il file en Europe, en Occident, en Europe, parce qu'on disait comme ça à l'époque, l'Europe c'était pas eux, c'était nous, il file en Europe rejoindre sa maîtresse, Apollinaria Suslova, une sacrée garce dont je vous reparlerai tout à l'heure. Hein, et c'est d'ailleurs ce mois-ci, lors d'un arrêt à Wiesbaden, qu'il contracta la passion du jeu, qui ne le quittera plus pendant un peu plus de 4 ans, donc 67-71, avril 71. Vous voyez, un peu comme si le diable, que Dostoïevski introduira dans certaines de ses œuvres comme personnage, avait mis la main sur lui. Le voilà aux prises, soyons francs, avec deux passions, le sexe et le jeu. Voilà. Bon, ça fait beaucoup pour un type qui va ensuite camper comme personnage principal des sages éthérés, genre Bouddha sur sa montagne, dans les frères Karamazov. Alors, donc le double, c'est la première incarnation dans l'œuvre d'un thème qui est à la base de toute l'œuvre de Dostoïevski, la dualité de l'homme, siège de la lutte entre le bien et le mal. Cette dualité, Dostoïevski reconnaît dans une lettre d'avril 1880 qu'elle a toujours été en lui, toute sa vie. Et il ajoute qu'elle est le trait le plus commun chez les hommes et les femmes. Enfin, c'est moi qui l'ajoute, les femmes. Oui. On retrouve ce thème de la dualité dans presque toutes ses grandes œuvres. Dans l'adolescent, dans Crime et châtiment, dans les démons, dans les frères Karamazov aussi. Oui, j'hésite à développer ce thème, mais voilà, c'est ça. Et le dédoublement, le thème du double est un des grands thèmes de la culture russe, depuis la nuit des temps. On le trouve déjà dans le paganisme slave. Là, le double est en tout identique à l'homme, mais il n'a pas de visage propre. Vous savez, la Russie a été très très longtemps, cette première période de son histoire, où ce n'était pas encore la Russie, ça ne s'appelait pas la Russie, il n'y avait pas de Russes, il n'y avait pas d'Ukrainiens, il n'y avait pas de Biélorusses, il y avait la Kievské Rus, la Rousse de Kiev. Et la Rousse de Kiev, ce n'est pas la propriété de Vladimir Poutine, ni non plus du président ukrainien, ni non plus du président, ce petit salopard, la Loukachenko. Hein? Voilà, Loukachenko. La Rousse de Kiev, elle n'appartient à personne. Elle est récupérée par Poutine et sa propagande. Mais elle est le tronc commun à partir du XVe siècle, vont naître trois grandes branches, les trois grandes langues, nation et culture. N'est-ce pas? Hein? La Rousse de Kiev, c'est le tronc commun, c'est la base à partir de laquelle se développent ces grandes branches. Et donc, dans cette époque-là, le double, dans cette culture-là, est en tout identique à l'homme, mais il n'a pas de visage propre. Et il porte le masque de celui qu'il veut imiter, usurper. Par ailleurs, il n'est pas inintéressant de noter que dans les croyances populaires germaniques, si le héros croise son double, c'est qu'il va mourir. Dans la culture chrétienne, on croyait que l'apparition du double, c'est un truc du diable, qui, pour faire enrager Dieu, crée une copie exacte de sa création. C'est d'ailleurs la tradition chrétienne, les évangiles, qui vont fixer pour la culture européenne le paradigme du double, le Christ et l'Antéchrist. Depuis l'évangile selon saint Matthieu, versets 24, 4-5, Jésus dit à ses disciples à la sortie du temple: prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront: c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Et plus loin, il ajoute: des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Il y a aussi le double dans la littérature européenne. Quelques exemples. Vous avez le double dans Les élixirs du diable et Le petit Zaquée de Hoffmann. Vous avez le double dans Le nez de Gogol. Le nez est le double du major Kovalyov. Et vous avez un double dans L'ombre d'Andersen. En octobre 1947, Dostoïevski publie une petite nouvelle qui s'appelle La logeuse, Khaziaïka. Et il y aborde, dans une ambiance un peu spéciale, un thème qui reviendra en grand dans son œuvre et dans la légende du grand inquisiteur. Ce thème est très important. Je le décris un peu. C'est le thème suivant: les hommes sont trop faibles pour supporter la liberté. Et ils s'empressent de la remettre entre les mains de leur guide oppresseur. C'est un thème qui avait été traité par la Boétie, le thème de la servitude volontaire. Vous voyez, le croisement des cultures. Et c'est ce que dit le vieux marchand Mourine, héros de la nouvelle La Logeuse, qui est le père de la très jolie Yekaterina. Il le dit à propos de sa fille. Il le dit à sa fille et à propos d'elle. Un cœur faible seul ne tient pas. Offre-lui donc tout. Il viendra lui-même se rendre à merci. Donne-lui en possession un demi-royaume. Essaie. Il reviendra sur le champ, se glisser dans ton godillot, se fera tout petit. Donne-lui la liberté. En russe, la liberté, c'est un drôle de mot, volyushka, volyushku, à cet homme faible. Il la ligotera lui-même et te la rapportera. La liberté n'est d'aucune utilité à une âme stupide. C'est rude. Hein. Et si un jour vous lisez les frères Karamazov, vous verrez que dans le roman, il y a une scène centrale. Qui est dans la bouche d'Ivan. Ivan invente un roman enchâssé dans le roman. C'est ce qu'on appelle la légende du grand inquisiteur. C'est le titre du chapitre. Vous pouvez même le lire d'ailleurs ce soir ou demain, enfin prenez votre temps, il n'y a pas de contrôle, pas d'interrogation écrite dans une semaine. Vous pouvez le lire séparément du roman, la légende du grand inquisiteur. Et cette légende du grand inquisiteur, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus qui redescend sur terre à Séville, en plein été. Bon, et il est immédiatement arrêté par le grand inquisiteur, qui est le maître absolu de la ville et de la région, l'empereur, le chef d'État, le prince, n'est-ce pas? Bon. Et le grand inquisiteur fait interner Jésus, et la scène est la suivante: Jésus est debout derrière les barreaux, le grand inquisiteur, qui est un vieux monsieur, lui parle, c'est un monologue, Jésus écoute, c'est tout, il ne dit rien. Et le grand inquisiteur dit ceci à Jésus, il lui dit: écoute, je t'ai fait arrêter là, Si je ne l'avais pas fait, la foule t'aurait écharpé. Elle n'a nul besoin de ton message de liberté, de libre arbitre, la foule. Nul besoin. Elle t'aurait lynché. Elle ne le comprend pas, ton message de libre arbitre. Et moi, je l'ai comprise, la foule. J'ai compris, j'ai conclu un pacte avec elle. Je la nourris et elle me donne sa conscience, son libre arbitre. Hein ? Superbe. Hein ? C'est le slogan de tous les régimes totalitaires. Hein ? Hein ? En un mot, tout est dit. Et tout est dit aussi sur la servitude volontaire, sur l'adhésion des foules à celui qui le nourrit. Bon. Alors, dans la logeuse, on trouve aussi un autre thème qui sera développé dans l'œuvre ultérieurement, qui est un thème assez curieux, où Dostoïevski se contredit. C'est le thème de la méfiance vis-à-vis de l'érudition, des livres, du savoir. Et là, Dostoïevski se fait en quelque sorte un peu l'écho, sans doute inconsciemment, d'une vieille antienne de la culture orthodoxe. La religion chrétienne orthodoxe se méfie, comme d'ailleurs c'était un peu le cas dans la tradition chrétienne d'Orient, se méfie de l'érudition du savoir. Et là, il s'en fait l'écho, y compris dans cette petite nouvelle, La Logeuse, qui se place donc en 1847. Le vieux Mourine, toujours le même, dit à un moment donné, « Vous avez lu trop de livres, cher monsieur. » J'ai failli imiter la... Mais moi, Kersaudi le fit mieux que moi, de Gaulle, mais c'est pas du tout le lieu. « Vous avez donc trop... » C'est juste par réflexe. Vous avez lu trop de livres, cher monsieur. Je vais vous dire, vous êtes devenu un peu trop intelligent. Comme on dit chez nous, dans le peuple. Alors là, il y a une expression bizarre en russe. C'est zarazum zashol. C'est très curieux. Comme si, en russe, mot à mot, c'est votre intelligence a dépassé votre raison. Elle est allée derrière votre raison. C'est-à-dire, donc vous êtes devenu zinzin, quoi, à force d'être trop intelligent. Vous voyez, hein, comme on dit familièrement en français, vous avez le melon. Ouais, bon. Et d'ailleurs, en France, je vous signale que dans les années 40, on a ce même courant idéologique. Après 48, on croit de plus en plus que le livre rend fou, lire rend fou. Et l'anti-intellectualisme progresse dans ces années-là en France. Y en a un qui lui prête sa voix, c'est le petit père Proudhon qui lui prête sa voix et sa plume. Proudhon était non seulement antiféministe, misogyne, je veux dire, hein, et en plus très méfiant vis-à-vis du savoir. Alors c'est très curieux, parce que Dostoïevski, lui, l'autre Dostoïevski, l'autre face du bonhomme, chante un hymne à la science, venu d'Occident, que Dostoïevski reconnaît parfaitement, l'origine occidentale de la science, et il la chante par ailleurs. Bon, contradiction, hein, c'est comme ça. À partir de 47, Dostoïevski commence à fréquenter un cercle de réflexion. Il est tout jeune, 47, regardez, il a 26, 27 ans. Et il commence à fréquenter un cercle de réflexion, Kloujok en russe, animé par un type qui est aussi jeune que lui, d'ailleurs, qui est traducteur aux affaires étrangères, un nommé Petrachevski. Alors, c'est une secte philosophique, il faut voir ça, on est à Saint-Pétersbourg. Petrachevski a de l'argent, il reçoit. Il y a un bon dîner, il y a une cinquantaine de personnes quelquefois, hein, il y a du monde. Et on discute, on lit des œuvres occidentales, on lit des œuvres quelquefois interdites par la censure, on lit Fourier, on lit Helvétius, on lit Saint-Simon, Considérant, Cabet, Leroux, Pierre Leroux et d'autres. On peut emprunter un livre dans la vaste bibliothèque de Petrachevski. Et on traite surtout d'un point qui inquiète beaucoup Dostoïevski, on l'a compris depuis le début, ce qu'on appelle la question sociale. Et la question sociale en Russie, à l'époque, c'est la question paysanne. C'est la question du servage. Hein. Dostoïevski reste toute sa vie, il restera toute sa vie sensible à la question sociale, à la misère des pauvres. Et les pauvres, il les connaît. Son père ne soignait que des pauvres. Il les a vus défiler dans la maison, hein, et dans le cabinet paternel. La question sociale, qu'il a vue aussi sous la plume de Georges Sand, qu'il lit attentivement, et même des premiers romans de Balzac. Alors, quelles étaient ses idées dans ces années-là, 47, 45, 49, hein, première décennie. C'est important pour la suite. Il se dit fouriériste. Hein. Vous allez voir, parce qu'après, il va être arrêté, il va partir au bagne. Hein. Il professait une sorte de socialisme chrétien, hein, une sorte d'évangélisme qui va l'accompagner toute sa vie. Hein. Il était blessé par l'immoralité du servage, la cruauté des châtiments corporels. Dans l'armée russe, on fouettait les soldats. Hein ? On fouettait les soldats. On s'est juste arrêté pendant quelques mois dans les troupes qui occupaient Paris en 1814-15, parce que les Parisiens étaient tellement effarés que les officiers avaient honte. Donc ils se sont arrêtés, puis ils ont recommencé dès que l'armée russe est rentrée dans l'Empire. Et il se sentait, il était blessé par la cruauté des châtiments corporels, par l'infidélité de l'Église aux préceptes du Christ. Et il se sentait directement concerné par la misère qu'il voyait tout autour de lui. J'aborde maintenant la troisième période de sa vie et de son œuvre, celle qui commence en 1849 et qui va se terminer en 1859. Cette période, je l'ai appelée le bagne et la relégation. La grande histoire va rattraper Dostoïevski en 49, courant 49, dans le cadre de ce cercle philosophique dont je vous ai parlé, Petrachevski. L'empereur Nicolas est effrayé par la teneur des discussions de ce petit cercle de 50 personnes à peu près, parce que c'est quand même des membres de son élite. Elle n'est pas si grande que ça, l'élite russe à l'époque. Ce sont des jeunes hommes qui ont fait les études supérieures, puis des gens intelligents. Alors, il n'a aucune envie, Nicolas, nous sommes en 49, 1849, il n'a aucune envie d'affronter le même type de révolution qu'a connu Paris l'année dernière, en 1848. Il a la trouille. Et donc, il frappe fort et vite. Le 22 avril 49, la police débarque à l'aube chez les 34 membres du cercle de Petrachevski et les arrête. Ils ont été dénoncés par un agent infiltré, un nommé Antonelli. Ils sont internés dans la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg. Et Nicolas lui-même, il y a un vrai procès, hein. C'est pas du tout l'arbitraire total, il y a un vrai procès. Le Nicolas lui-même, très inquiet de voir ses nobles, sa future élite, dériver vers des idées aussi dangereuses, conduit le procès. Dostoïevski ne le sait pas encore, qui est l'auteur pour l'instant d'un roman et de quelques nouvelles, mais il va là bientôt disparaître de la vie de Saint-Pétersbourg pour une décennie. Je vous passe sur les minutes de la déposition de Dostoïevski. Il y a une véritable déposition où Dostoïevski est très courageux, puis il fait comprendre au juge d'instruction et aux policiers que le cercle, être fourriériste, c'est pas du tout dangereux, que c'est finalement une douce utopie. Il est très lucide, mais il est condamné écoutez, tenez-vous bien, il est condamné, en tout cas au premier abord, à la peine capitale. Il est condamné à mort. Et le tsar, c'est pas le tsar, c'est le code pénal de l'époque qui fait que quand on est condamné à mort, et qu'on est gracié par le tsar et que la peine est commuée en une peine de bagne, il y a une sinistre cérémonie qui est mise en place, qui est une simulation de l'exécution. Donc à 28 ans, fin 49, Dostoïevski se retrouve sur l'estrade. Au cœur de la forteresse Pierre et Paul, et ils sont fusillés par trois. Alors il n'est pas dans la vague des trois premiers, si je puis dire. Il est juste derrière sur l'estrade avec les autres et ils attendent leur tour. Il a calculé qu'il lui reste quelques minutes à vivre, à peine un quart d'heure. Et les premiers trois sont donc noués à chacun à son poteau d'exécution, ils sont fusillés, hein. Ils vont être fusillés. Une cagoule sur la tête, et Dostoïevski, lui, voit la scène. Hein, et il attend la mort. Il a 28 ans, il sait qu'il est. Il porte en lui une grande œuvre, hein, on l'a déjà vu ensemble, et il sait qu'il va mourir. Et cette scène, il l'a décrite et dans ses lettres, c'est une scène choc évidemment. La peine va être commuée en 4 ans et demi de bagne et 5 ans de relégation, ce qu'il va faire, mais il ne le sait pas. Et la mise en scène est sinistre et au dernier moment, là, il s'attend à être fusillé, après les trois premiers, arrive une ordonnance du tsar au galop, au grand galop, en grand uniforme, et lit la commutation de la peine en peine de bagne et de relégation pour chacun à sa peine. Hein. Lui, il est comme de 4 ans et demi. Donc nous sommes en décembre 49, et en janvier 50, il part les fers aux pieds, hein. Il suit la route de la Sibérie, l'actuel circuit itinéraire du Transsibérien, hein, vers l'Est, vers la Sibérie. Il va faire 4 ans et demi de bagne dans le bagne d'Omsk, hein, actuellement grande ville de Sibérie occidentale. Et beaucoup plus tard, il dira ceci. Il ne reniera jamais, c'est assez curieux, j'y reviendrai tout à l'heure, Dostoïevski ne reniera jamais vraiment son engagement socialiste chrétien des années 40. Il le dit beaucoup plus tard, en 1873. Voici ce qu'il dit. Nous, les Petracheviens, étions debout face au poteau d'exécution et écoutions la sentence sans l'ombre d'un repentir. La majorité d'entre nous aurait considéré comme un déshonneur de renoncer à ses convictions. L'affaire pour laquelle nous étions condamnés, les pensées, les concepts qui étaient nôtres, nous apparaissaient non seulement comme n'exigeant aucun repentir, mais même comme nous purifiant, comme un martyr pour lequel beaucoup nous seraient pardonnés. Et nous partageâmes longtemps cette manière de voir. Ce ne sont pas les années d'exil, ce ne sont pas les souffrances qui nous ont brisés. Au contraire, rien ne nous a brisés et nos convictions ont soutenu notre courage par la conviction du devoir accompli. Non, c'est quelque chose d'autre qui a changé notre regard, nos convictions et nos cœurs. Et là, on va apparaître un thème que je vais développer tout de suite. Écoutez bien, c'est le contact direct avec le peuple, l'union fraternelle avec lui dans le malheur commun, la prise de conscience que tu es toi-même l'un des leurs, égal à lui et même abaissé à son degré le plus bas. Je répète, cela ne s'est pas fait rapidement, mais peu à peu et après un très très long temps. D'ailleurs, je fus peut-être l'un de ceux pour qui le retour aux racines populaires, la reconnaissance de l'âme russe, de l'esprit du peuple, furent le plus faciles. Donc, le 19 décembre 1949, 21 prévenus sont condamnés à la peine de mort, peine commuée, et on a là une lettre magnifique qu'il écrit à son frère Michel, puisque à un moment donné, les condamnés quittent la forteresse Pierre-et-Paul et traversent Saint-Pétersbourg enneigé, c'est l'hiver, c'est d'ailleurs la veille des fêtes de Nouvel An et de Noël orthodoxes, et les appartements sont illuminés, ils voient des sapins de Noël à travers les vitres, là, les bougies, etc. Et il écrit à son frère peu après, il lui dit, en français, il lui dit, on voit le soleil. C'est-à-dire qu'il sent, vous n'avez, écoutez, ça c'est très humain. Lui, il a frisé la mort. Et si certains d'entre vous, pour certains et certains d'entre vous, ça a été le cas, ou même après un accident de voiture, moi j'en ai eu un il y a des années de ça, et je me souviens, j'aurais pu d'ailleurs être très gravement blessé, voire disparaître, j'en suis très bien tiré. Et j'ai eu un surcroît d'énergie fabuleux. Ce qu'on ressent d'ailleurs, juste après l'accident, ce qu'on ressent aussi, j'imagine, quand on fait la guerre. Au fond, et quand on rentre du front, du combat, et qu'on rentre dans, on est vivant, et c'est ce qui compte. Et là, il dit, on voit le soleil. Jamais encore autant ni d'aussi saine réserve de vie spirituelle n'avait bouillonné en moi. Voilà. Nous sommes en 49. L'écrivain découvre donc, après cette scène capitale, ce qu'il appellera la vie vivante, qui est belle et bonne tant que les hommes ne la gâtent pas. Et on la gâte déjà quand on se met à raisonner sur elle. Toujours cette méfiance vis-à-vis du raisonnement et de l'érudition. Et cette scène, je vous le dis parce que vous lirez un jour L'Idiot, l'un de ses grands romans, on la retrouve dans L'Idiot, cette scène de la fusillade transformée en peine de prison. Et dans L'Idiot, j'aurais peut-être pas le temps de vous la lire, mais le passage est quand même très beau. Hein, attendez. Elle est décrite en détail par le prince Mouchkine, le héros de L'Idiot, à l'épouse du général et à ses filles. Et Mouchkine ne parle pas de son expérience à lui, mais de celle d'un soldat qu'il a lui a raconté. Et l'expérience de ce soldat, c'est celle qu'a vécue Dostoïevski. Il a calculé qu'il lui reste 20 minutes à vivre, et il fait tout un plan, le soldat, donc, dans le récit de Mouchkine, tout un plan, il échafaude tout un plan pour occuper ses 20 minutes, comme si c'était toute sa vie. Et là, je cite le roman. Arrivent les deux dernières minutes qu'il avait calculées pour penser dans son fort intérieur. Il savait à l'avance à quoi il penserait. Il voulait absolument comprendre, là, tout de suite, et avec la plus grande clarté, ceci, deux points. Comment cela pouvait-il se faire que maintenant il est là, il est vivant, que dans 3 minutes, il n'y aura plus que quelque chose. En russe, c'est Nietzsche. Quelqu'un ou quelque chose. Mais qui alors? Et où sera-t-il? Tout cela, il voulait en trouver la solution dans ces 2 minutes-là. Tout près de là se dressait une église. Ça, c'est ce qu'a vécu Dostoïevski. Écoutez bien. Tout près de là se dressait une église. Et le sommet de l'église, avec son toit doré, brillait dans le clair soleil. Il se souvenait que ses yeux étaient totalement rivés à ce toit et ses rayons qui en émanaient. Il ne pouvait s'en détacher de ses rayons de soleil. Il lui semblait que ces rayons étaient sa nouvelle nature à lui, que dans 3 minutes, il se fondrait en eux d'une manière ou d'une autre. Cette chose inconnue et qui allait survenir et qui le dégoûtait était horrible. Mais il dit qu'alors rien n'était plus pénible pour lui que cette pensée incessante. Et si je n'allais pas mourir? Et si la vie m'était rendue? Quelle éternité alors? Et elle serait mienne? Alors de chaque minute je ferais un siècle. Je n'en perdrai pas une goutte. Je rendrai compte de chaque minute, n'en gaspillerai aucune. Il disait, le soldat donc, que cette pensée le mettait dans une rage telle qu'il souhaitait, écoutez bien, qu'il souhaitait qu'on le fusillât le plus vite possible. Et alors là on est dans le grand, on est chez un grand écrivain, parce que pointe au milieu du drame la petite note d'humour, la mise à distance. Il souhaitait qu'on le fusillât le plus vite possible. Pas de mélo, pas de sucre candi. Le type en arrive à souhaiter qu'on en finisse avec lui, car ses pensées l'agacent. Il a presque envie de dire aux soldats qui le mettent en joue, alors que les pensées galopent dans sa tête, « Bon, allez les gars, dépêchez-vous de tirer, j'en ai marre de penser, finissons-en. » C'est toute la différence entre un écrivaillon et un grand écrivain. L'humour, c'est ça la différence. Et l'humour, l'écrivain tchèque Milan Kundera en donne la définition suivante, citation, « L'éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté morale et l'homme dans sa profonde incompétence à juger les autres. L'humour, l'ivresse de la relativité des choses humaines, le plaisir étrange issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. » Fin de citation de Milan Kundera dans « Les Testaments trahis ». Mais avant de passer à la courte conversation qui suit le récit du prince Mouichkin dans le roman « L'idiot », je m'arrête un instant sur cette pointe d'humour, cette légèreté, car il faut bien reconnaître qu'ils se feront bien rares, cette légèreté, cet humour, dans les grands romans, en particulier dans Les Démons, nous verrons pourquoi, et dans Les Frères Karamazov, où l'écrivain nous infligera de lourdes mais profondes réflexions morales du Starets Zosim. Alors, le prince Mouichkin a terminé son récit. Il est là, face à l'épouse du général et à ses deux filles. Il vient d'arriver de Suisse, à Saint-Pétersbourg, le prince Mouichkin. Et les deux jeunes filles sont charmantes et futées, intelligentes. Et l'une d'entre elles dit son étonnement que le récit soit interrompu si vite et elle veut en savoir plus. Alors, elle revient au concret, là, la jeune femme. Puis elle le taquine, Mouichkin, parce qu'il est bien gentil, mais il a l'air un peu neuneux quand même. Et elles sont taquines, les filles. Donc, alors finalement, demande-t-elle, sa peine a été commuée, donc on la lui a offert, cette vie éternelle. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il en a fait? Ensuite, de toute cette éternité, il a savouré chaque minute ? Oh non, répond le prince Mouichkin. Il m'a dit lui-même qu'il n'a pas vécu comme cela. Il en a gaspillé des minutes. Et Alexandra, qui a la tête sur les épaules, tire la conclusion générale. Donc, voilà un essai concluant. Donc, il est impossible de vivre en savourant, en rendant compte de chaque minute. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ainsi. Et Mouichkin, qui n'est pas d'accord, marmonne quelque chose dans le genre « Oh, il me semblait bien à moi que c'était possible », ce qui lui attira la moquerie de l'autre jeune femme, du général, la plus espiègle, Aglaé, qui lui demande s'il se croit plus intelligent que tout le monde. Vous voyez, ce passage est intéressant parce qu'il nous montre un peu l'art de l'écrivain. Il nous dit « Attention, cela est bien compliqué, nuancé, je ne suis pas tout entier le prince Mouichkin, dit Dostoïevski, méfiez-vous, c'est un petit peu plus compliqué ». Que cela. L'écrivain passe donc 4 ans au bagne, à Omsk, du 23 janvier 1850 au 15 février 1854. Bon. Et il va y approfondir sa connaissance du peuple russe. Parce que pour lui, au bagne, c'est le peuple russe qui est au bagne. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les prisons russes, le régime de Poutine actuellement est un des régimes les plus carcérales du monde. Il y a 450 000 détenus dans les prisons russes. Dans les prisons russes, aujourd'hui, c'est le peuple russe qui est interné. Dans toute sa diversité, depuis l'humble moujik bûcheron dans la forêt, jusqu'au petit entrepreneur, ou même, et il y en a beaucoup, au grand entrepreneur. Bon, petite parenthèse. Pour Dostoïevski, qui croit bien connaître le peuple, le choc est rude. 4 longues années, sans isolement, sans un moment de solitude, au milieu de criminels, assassins, violeurs, voleurs de grands chemins, tout un ramassis de gens violents qui se voient eux-mêmes au dernier degré de la société. Et Dostoïevski souffre de cette promiscuité et surtout, il découvre quelque chose qu'il n'attendait pas, mais qu'il avait entendu dans l'assassinat de son père, vous vous souvenez, c'est la haine profonde que tous ces gens nourrissent pour la noblesse dont il fait partie. Et c'est cependant pendant ces quatre années, c'est pendant ces quatre années et dans les années qui vont suivre, parce qu'à partir de 54 jusqu'en 59, il sera en relégation comme simple soldat quelque part dans un petit patelin qu'on connaît bien, parce que Semipalatinsk, c'est là où les soviétiques ont installé leur tir de lancement des fusées pour la conquête du cosmos. Hein, c'est au Kazakhstan. C'est pendant ces années au bagne que va se préciser l'idée que Dostoïevski se fait du peuple, et l'idée qu'il va découvrir, qu'il va développer dans son œuvre un peu plus tard. Alors c'est très curieux cette idée. Il va conjuguer, il va faire se coexister un regard lucide, sans concession, sur le peuple russe, mais dire et faire dire par ses personnages qu'il a su voir aussi la pépite cachée là-bas, tout au fond de la gangue de boue, de ces criminels, assassins, voleurs, violeurs, etc. Au fond, Dostoïevski sauve l'humain dans l'homme. Il y a un autre écrivain, qui, beaucoup plus tard, au XXe siècle, qui lui connaîtra non pas le bagne impérial, qui va paraître en comparaison presque une sorte de petit club méditerrané, mais qui connaîtra les camps staliniens, c'est Chalamov, qui reprendra ce thème-là, Varlam Chalamov. Tiens, j'aimerais un jour vous faire une conférence sur Chalamov, vous le faire découvrir, c'est vraiment un auteur tout à fait passionnant, c'est un grand écrivain. Alors, regardez un peu, voyons un petit peu cette histoire de pépite cachée. Ça ne l'empêche pas de voir le réel. Et alors, juste une parenthèse, la pépite cachée, sans donner de détails, parce que bon, c'est quand même une conférence publique et enregistrée, j'ai une connaissance qui est juge dans une très grande ville de France, actuellement, et qui a été juge, qui est toujours, mais elle va changer, qui est juge pour enfants dans des quartiers très difficiles, d'une très grande ville de France très difficile. Et elle aussi, un jour, dans une conversation, je la faisais parler de son métier, parce qu'elle a en face d'elle des jeunes filles et jeunes gens, de tout jeunes adolescents, qui ont déjà fait les 400 coups, hein, et qui s'estiment eux-mêmes déjà soit condamnés à mort, soit condamnés à la prison, qui le lui ont dit dans son bureau de juge. Et elle aussi, tout d'un coup, emploie cette expression de pépite cachée. Elle a su voir, sans avoir lu Dostoïevski, hein, elle a su voir, c'est la même expression, elle tentait désespérément comme juge de la République, hein, au nom du peuple français, hein, c'est la formule consacrée, de voir derrière ces jeunes perdus, hein, la pépite cachée pour essayer de leur donner le ressort et vers une renaissance en quelque sorte. Hein. Donc je voulais vous faire cette parenthèse, parce que je trouve qu'elle est assez touchante, et que ce thème-là, finalement, il n'est pas si dostoïevskien et si éloigné de nous que cela. Alors, voici ce qu'en 1854, dès sa sortie du bagne, Dostoïevski écrit dans une lettre à son frère, voilà, en février 54. Il vient de sortir, c'est tout frais. Et la citation est assez longue, suivez-la bien, parce qu'on sent déjà l'évolution vers la lucidité intransigeante et se dessine l'idéalisation du petit peuple russe. Je fis la connaissance du peuple des bagnards dès l'étape de Tobolsk. L'étape de Tobolsk, c'est quand il va au bagne les fers aux pieds. Et ici, à Omsk, je m'apprêtais à vivre avec lui 4 années. Ce sont des gens grossiers, irrités et méchants. La haine pour les nobles dépasse en eux toutes les bornes. C'est pourquoi ils nous ont accueillis, nous les nobles, en ennemis, avec une joie mauvaise devant notre malheur. Ils nous auraient dévorés si on les avait laissés faire. Juge un peu de la manière dont nous pouvions nous en protéger, alors qu'il nous fallut vivre, manger, boire, dormir avec ces gens plusieurs années, et pas moyen de se plaindre de leurs innombrables vexations. Vous, les nobles, avec vos becs d'acier, vous nous déchiquetiez. Ça, c'est une citation qu'il a entendue dans la bouche de ces truands-là. Avant, tu étais le maître, tu faisais souffrir les petites gens. Et maintenant, tu es au dernier degré, tu es devenu comme nous. Hein? En russe, c'est saisissant. C'est Vridvaryanie, Jeliesnie Nosi, ce que j'ai traduit par bec d'acier, pas facile à traduire. Vrinas Zaklevali, c'est la métaphore du bec qui picore le corps du peuple, hein, le noble avec son bec. Prejdi gaspadinom byl, narod muchil, a tipir khuzhe paslednjego, nash brat stal. Voilà ce que nous avons entendu avec des variantes pendant 4 ans. C'est beau le russe, hein, hein, c'est beau. Hein, bon, hein, et 150 ennemis ne se lassaient pas de nous harceler. C'était leur grand plaisir, leur distraction, leur occupation. Et si nous avions pu nous préserver, si nous avons pu nous préserver du chagrin, c'est par l'indifférence, la supériorité morale qu'ils ne pouvaient pas ne pas comprendre et respecter, et le refus de nous soumettre à leur volonté. Ils avaient toujours conscience que nous leur étions supérieurs. Ils ne savaient pas quel délit nous avions commis. Nous nous gardions bien de le leur dire. Et donc, eux et nous ne nous comprenions pas. Il nous fallut donc endurer toute la soif de vengeance, tout le harcèlement qu'ils nourrissaient à notre égard et qui était leur raison de vivre. Et plus loin, dans la même lettre, il ajoute « Tous les bagnards puent comme des porcs et disent qu'on ne peut pas ne pas faire de cochonneries car nous sommes des êtres vivants. » En quelque sorte, Dostoïevski découvre au bagne, au sein du peuple russe, une réalité qu'il va interpréter comme étant le sentiment et la soif de justice. Mais pour l'instant, le tableau qu'il dresse est tout à fait réaliste. Même la petite ville d'Omsk le bagne se trouve, il dit c'est une vilaine petite ville. Il n'y a presque pas d'arbres. L'été, on crève de chaud et on supporte les tempêtes de sable. L'hiver, les tempêtes de neige. La ville est sale, pleine de militaires et débauchée au plus haut degré. Je parle de la populace. Tchorny narod, en russe, la populace. Et dans la page suivante de cette lettre, voici qu'il esquisse, il dit à la fois sa peur de l'homme simple, du peuple, et sa joie d'avoir découvert au bagne des personnalités hors du commun. Le mécanisme de l'idéalisation est en marche. On me dit pour me donner du courage que là-bas, quand je serai en relégation à Semipalatinsk, il n'y a que des gens simples. Mais justement, je crains bien plus les gens simples que les gens compliqués. Par ailleurs, les gens sont partout les mêmes. Même au bagne, parmi les brigands, en 4 ans, j'ai fini par en discerner des fortes personnalités, des caractères bien trempés, profonds, beaux, et débusquer l'or sous l'écorce grossière me remplissait de joie. Et pas un seul individu, mais deux, plusieurs. Certains, on ne peut pas ne pas les respecter. D'autres sont beaux, tout simplement. Combien de types, de caractères, d'hommes du peuple n'ai-je pas vus au bagne ? Je me suis fondu en eux, et donc je les connais bien. Combien d'histoires de vagabonds et de brigands, combien de sombres récits de malheurs, de souffrances n'ai-je point entendu ? J'en ai pour plusieurs tomes. Quel peuple d'originaux ! En russe, c'est amusant comme expression, c'est « «Что за чудный народ?» » On retrouvera ce débusquement de l'or sous la boue dans un curieux texte. Tiens, voilà un texte que je peux vous recommander au début. Les carnets de la maison morte. 6 ans plus tard, en 60, 61, 62, Dostoïevski est déjà rentré à Saint-Pétersbourg. Il va écrire ce qui n'est ni un roman ni des mémoires. Un drôle de texte. Les carnets de la maison morte. Fabuleux. C'est la galerie des portraits de bagnards qu'il a fréquenté pendant 4 ans et demi. Ça se lit comme un roman d'aventure. Je vous le conseille vivement. Oui, j'ai oublié de vous le dire, Dostoïevski, il faut le lire dans les traductions de Markovitch. Hein ? Ne prenez pas dans la Pléiade, la traduction a vieilli. Vous achetez les traductions de, je ne sais plus quel est son prénom, enfin, je dis Markovitch, mais ça écrit, vous savez, c'est une historiographe polonaise avec WCZ à la fin, je crois. Hein ? C'est les meilleures traductions qui ont été faites, refaites de Dostoïevski. Pardon. Donc, entre 54 et 60, on peut parler d'un processus d'idéalisation du peuple, hein, par tri opéré dans ses souvenirs du bagne. La lucidité est toujours au rendez-vous. Là, je vous passe les exemples parce qu'il faut avancer. Mais il y a clairement idéalisation. Et dans les années 70, ce peuple qui pue et qui boit, dont je viens de vous citer qui bat sa femme comme plâtre, qui taloche à qui mieux les enfants, devient dans la pensée de Dostoïevski le peuple porteur de Dieu, le peuple théophore. Hein, théophore parce que, dit Dostoïevski, au fil des siècles, au creux de ses souffrances infinies, il a connu le Christ et a préservé en lui les vertus évangéliques. Et surtout, pour Dostoïevski, c'est très important, faisant le mal, il a toujours su qu'il péchait. et qu'il faisait le mal, tandis que la classe instruite, supérieure, a aboli la notion de péché. Et Dostoïevski pense maintenant que c'est du peuple qui viendra le salut de sa foi et de son humilité. Et le voilà qui met en garde l'étudiant, l'instruit en général, qui, en s'arrachant à la société et en l'abandonnant, ne va pas au peuple, mais quelque part à l'étranger, dans l'européisme, hein, dans le règne absolu de l'homme universel qui n'a jamais existé. Et de cette façon, il rompt avec le peuple, le méprise et le méconnaît. Le peuple, pour Dostoïevski, a donc conservé la notion de péché. Il fait le mal, mais il sait qu'il fait le mal, qu'il fait le mal. Et dans toutes les histoires enchâssées dans les romans de Dostoïevski, il y a toujours cette notion, donc on commet le péché, mais on sait qu'on commet le péché. Pour Dostoïevski, l'homme est un être libre, et cette liberté le rend responsable de ses actes, de ses choix. Le plus curieux d'ailleurs, c'est que dans l'œuvre de Dostoïevski, vous verrez, il y a très peu de paysans. Il y a très très peu de paysans. Ses personnages principaux sont des gens instruits, des gens de la noblesse moyenne ou supérieure. Et pour les, et c'est un peu une contradiction de l'écrivain. Alors, nous entrons dans les années 60. En décembre 59, Dostoïevski est autorisé à rentrer à Saint-Pétersbourg. Il crée une revue. Et dans cette revue, comme en quelque sorte manifeste de cette nouvelle revue littéraire qui s'appelle Le Temps, il développe, en introduction, dans son premier numéro, il développe sa théorie qui est celle de l'enracinement. L'enracinement dans la terre russe, qui est une sorte de compromis entre les deux grands courants idéologiques qui se disputent la Russie, les occidentalistes d'un côté et les slavophiles de l'autre. L'idée russe va faire la synthèse, pense-t-il, de toutes les idées que toutes les nationalités de l'Europe développent. L'enracinement, c'est aussi une assimilation raisonnée de la civilisation occidentale qui doit s'enraciner dans la tradition russe, en premier lieu religieuse. Une sorte de conciliation de la civilisation avec le principe national. Voilà, c'est ce qu'il va développer à partir des années 60. Il publie les carnets de la Maison Morte, que je viens de vous recommander, et en 62 se passe un événement traumatique pour lui, le deuxième grand événement traumatique, dont il va faire tout un plat. En mai 62, il trouve accroché à sa porte une proclamation signée La Jeune Russie, un tract des révolutionnaires russes, qui dit nommément, s'il le faut pour renverser l'autocratie et instaurer une société de justice, eh bien, s'il faut faire 10 000 victimes, ou 100 000, ou 1 million, nous le ferons. C'est la première fois que, ouvertement, le message révolutionnaire, sans aucune pitié pour les individus et pour le nombre de victimes, est comme ça distribué à la population sous forme de petits tracts et accroché au pommeau de la porte. Il en est complètement effaré. En fait, c'est un petit groupuscule qui tente de se faire connaître, c'est pas grand-chose, mais pour lui, c'est un signal. Et nous sommes en mai 62. En 63, il vient donc, je vous l'ai dit, fuir littéralement son épouse mourante, hein, et rejoindre sa maîtresse Apollinaire Souslova à Wiesbaden et se consacrer pendant 4 ou 5 ans et se ruiner au jeu. Bon. C'est une année terrible, l'année 64, où il va développer, il va être seul, elle va le laisser tomber, Souslova. Entre parenthèses, Souslova mettra la main beaucoup plus tard sur un autre écrivain russe, Remizov, lui a 25 ans, elle en a 45 ans, hein, Remizov, et il mettra 20 ans pour se détacher d'elle et pour obtenir le divorce. Elle le rendra littéralement fou. Enfin, c'est quand même une sacrée bonne femme. Hein. Dostoïevski a su s'en détacher à temps, parce que de toute façon, c'est elle qui est partie. Elle flirtait avec d'autres jeunes hommes. Et Remizov, lui, il n'a pas su. Il a été sous emprise pendant longtemps. Et il en a développé d'ailleurs une misogynie absolument affolante dans son œuvre. Hein, parce que c'est une œuvre intéressante, celle de Remizov. Hein. C'est le début 20e siècle, vous voyez, Remizov. Bien, alors, je sabre. J'ai combien de temps, là, monsieur ?
Vous avez le temps qu'il faut.
Oui, mais c'est gentil, mais quand même. Je sabre pas mal de choses pour avancer à ce qui, moi, m'intéresse le plus pour vous et en général. Quitte à, bon, bah, tant pis, à passer sur certains points. Alors, en février 67, Dostoïevski épouse Anna Grigorievna Sitkina. Elle a 20 ans et en a 46. Le couple sera très heureux. En fait, Anna, c'est sa secrétaire. Il a embauché une dactylographe. Il n'y en a pas beaucoup à l'époque. Et elle est chargée de venir taper une de ses œuvres qu'il faut rendre à l'éditeur de toute urgence. Sinon, il est pieds et poings liés pour toute son œuvre future. Il a signé un contrat léonin avec un éditeur qui est un salopard. Et il faut qu'il se dégage de ça, quoi. Elle va l'aider. Et puis, elle a 20 ans. On parle de lui déjà partout en Russie. Il a publié Crime et Châtiment. Il est connu comme le loup blanc. Elle est en admiration devant son écrivain. Et petit à petit, il va se laisser séduire, quoi. Voilà. Et le couple sera très heureux. Très, très heureux. Ils auront plusieurs enfants, dont deux mourront en bas âge. Donc va s'ouvrir pratiquement au même moment, puisqu'il se débarrasse de la passion du jeu au même moment. Il va s'ouvrir une période heureuse pour lui. C'est la dernière décennie, les années 70 jusqu'à sa mort en 80. Ils vont aller passer plusieurs années à l'étranger. C'est important parce que ils vont aller vivre en Europe, comme ils disent, hein, à nouveau, à Dresde, à Genève aussi. Hein. Et à Genève, en septembre 67, le couple assiste à la réunion du congrès de la Ligue de la Paix et de la Liberté. Il y a là Louis Blanc, Edgar Quinet, Victor Hugo, Stuart Mill, Herzen, un grand penseur russe, très intéressant, une plume remarquable, Ogaryov, Bakounine est là, l'anarchiste Bakounine est là, Garibaldi y arrive en triomphe. Nous sommes en septembre 67. Et Dostoïevski et son épouse, mais Dostoïevski, écoutent le discours de Bakounine. Il en est complètement effaré. Ça va encore augmenter la trouille qu'il a ressentie après le tract dont je vous ai parlé. Hein ? Et là, c'est l'affolement, quoi. Et l'affolement va donner une œuvre. Hein ? C'est la plus intéressante, c'est celle que je voudrais développer. C'est pour ça que je vais vous demander un peu d'attention. Tenez le coup, parce que le plus intéressant est à venir. Hein ? C'est bon, ça va ? C'est bon pour l'instant ? Bon, vous me suivez, je vais un peu vite, mais... Alors voici ce que dit Bakounine, je vous cite Bakounine, son discours. « J'ai protesté, et je proteste ouvertement et décidément contre l'existence même de l'Empire russe. À cet empire, je souhaite toutes les humiliations, les défaites possibles, convaincu que je suis que ses succès, sa gloire étaient et seront toujours directement opposés au bonheur et à la liberté des peuples russes et non russes. » Reconnaissant en l'armée russe le fondement du pouvoir impérial, j'exprime ouvertement, dit toujours Bakounine, le vœu que dans toute guerre qu'entreprendra l'Empire, elle ne subisse que des défaites. Il y a un petit gars qui va reprendre ce thème-là un peu plus tard, il s'appellera Vladimir Ilitch Lénine, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Elle ne subisse que des défaites. C'est l'intérêt de la Russie qui l'exige. Et notre souhait est authentiquement patriotique au vrai sens de l'adjectif, parce que toujours les échecs du tsar ont allégé le fardeau du pouvoir sans limite de l'autocratie. Dostoïevski est absolument scandalisé. J'ai fait des coupes, hein, je vous préviens. C'était beaucoup plus long que prévu. Bon, alors, oui, j'interromps le thème. Je vais revenir tout de suite à ce thème-là parce que c'est en fait ce double traumatisme qui va nous lancer dans l'œuvre fondamentale la plus difficile à lire. Donc, je vais en parler un peu parce que je sais que vous ne la lirez pas. C'est une œuvre touffue. C'est les démons biaisés. Bon. Et pourtant, c'est la plus intéressante. C'est la plus intéressante, c'est la plus visionnaire des œuvres. Alors, avant d'en dire ça, il faut que je vous dise un mot du credo de Dostoïevski, parce qu'après, je ne peux plus le placer. Et donc, c'est un peu désordonné, mais je vous le dis là, je n'en ai pas pour longtemps. Le credo fondamental de Dostoïevski est le suivant. Il est placé dans la bouche de Nikolai Stavrogin, l'un des héros principaux des démons. Plus exactement dans la bouche de Chatov, excusez-moi. Mais Chatov reprend les mots de Stavrogin. Bon, peu importe, je vous cite le credo fondamental de Dostoïevski, écoutez bien. « Si quelqu'un me démontrait que le Christ est en dehors de la vérité, et s'il était effectivement avéré que la vérité est en dehors du Christ, je préférerais rester avec le Christ qu'avec la vérité. » Ça, c'est le credo central de la vie de Dostoïevski. Il s'est accroché désespérément à cette... Vous avez vu, hein, vous avez entendu, hein, hein, je préfère rester avec le Christ plutôt qu'avec la vérité. Parce que derrière ça, et c'est juste, je ne pourrais pas le développer, on va attaquer les démons, derrière ça, il faut savoir que Dostoïevski a douté de l'existence de Dieu toute sa vie. En fait, Dostoïevski est un être profondément dédoublé, ce qui fait que tous ses romans sont des dédoublements de lui-même. Ce qui est un classique, hein. Je suis en train de lire notre grand écrivain Jean Giono, c'est pareil. Jean Giono, il met dans ses récits, qu'il place souvent dans les années 30, tout ce qui a bouillonné en lui toute sa vie. C'est un classique. Bon. Et Dostoïevski a douté de l'existence de Dieu. Il l'avoue dans des lettres. Et il avoue même que, on en reparlera tout à l'heure avec les démons, il avoue même une secrète connivence avec les révolutionnaires. C'est très intéressant. Il est contre la révolution, mais en même temps, ses racines idéologiques de ses 25 ans parlent toujours. Vous allez voir, je vais développer ça. Hein, c'est assez, je trouve ça intéressant et en même temps fascinant. Je tenterai de vous montrer que c'est assez actuel quand même. Alors, maintenant, allons-y, les démons. C'est bon, je peux y aller, hein? Vous êtes toujours là? Bien. Alors, les démons, c'est les révolutionnaires. Alors, ce roman sort en 1871. C'est l'entrée dans la grande décennie heureuse. Il a remboursé toutes ses... Ah oui, il était toute sa vie endetté, Dostoïevski. Toute sa vie endetté, et toute sa vie, il a aidé les autres, financièrement. Il avait pris... il ne peut pas s'empêcher de dévouer pour les autres. C'est une sorte de le dévouement comme maladie, quoi. Son frère meurt, il promet à sa veuve, à sa belle-sœur, donc, de prendre en charge elle et les enfants. Mais c'est de la folie, enfin... Donc, en 71, il est sorti de l'endettement, grâce à la bonne gestion de sa très jeune femme, hein. Bon, pas d'œuvre de Dostoïevski sans Anna, hein, sa dévouée épouse, hein, c'est pareil pour Tolstoï. Hein. Tolstoï, sa femme, Sofia Andreevna, a sauvé l'œuvre, puis a sauvé le bonhomme. Hein, elle l'a payé très cher. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, on est le lendemain du 8 mars, je pouvais quand même faire un petit hommage aux épouses, parce qu'on n'en parle jamais des épouses. Hein. Bon, hein, pourtant. C'est le deuxième pilier de l'œuvre, hein, pour Tolstoï comme pour Dostoïevski. Alors, poussé par ces deux traumatismes, le tract, hein, et le discours de Bakounine, il sent venir le danger. C'est aussi des types, les artistes, ils ont des antennes. Hein, il y a une sensibilité très différente. Et il va chaque jour à la bibliothèque municipale, il va lire, éplucher à Dresde, hein, éplucher la presse révolutionnaire et tout. Et un jour, il apprend, troisième traumatisme idéologique, qu'à Moscou, il est à Dresde à ce moment-là avec madame, à Moscou, la police a découvert au fond d'un étang le cadavre d'un étudiant assassiné par un nommé Netchaïev. Ce Netchaïev, c'est le chef d'un groupuscule de jeunes gens violents, expéditifs et sommaires, qui rêvent, avec les mots de Bakounine, tiens, de la destruction totale du monde étatique légal et de toute la prétendue civilisation bourgeoise au moyen d'une révolution populaire spontanée dirigée par une dictature collective. Bon. Netchaïev a réussi à convaincre ses camarades qu'il fallait éliminer ce membre qui s'apprêtait à quitter la cellule. L'événement est prosaïque et nul, mais Dostoïevski vit bien que l'affaire était infiniment plus grave en intention qu'en action. Comme pièce à conviction, il n'y avait guère que le cadavre d'un étudiant et le catéchisme du révolutionnaire. Mais on ne quitte pas la révolution, le catéchisme. Et formel de cette petite bande-là. Je cite le catéchisme. Le révolutionnaire n'a pas d'intérêt particulier, d'affaires privées, de sentiments, d'attaches personnelles, de propriétés. Il n'a même pas de nom. Tout en lui est absorbé par un seul intérêt, à l'exclusion de tout autre, par une seule pensée, par une passion, la révolution. Vous voyez, le vocabulaire est presque mystique et c'est celui d'une profession monastique. Mais c'est une mystique déviée, dans laquelle la destruction voulue par Bakounine est substituée à la positivité divine. Cette mystique déviée, gauchie, ressemble assez à la mystique religieuse pour impressionner Dostoïevski. Lorsqu'il peindra dans les démons Stavrogin, d'après ses révolutionnaires, il le placera tout près de la sainteté, lui attribuera une place dans l'ascension spirituelle, bien au-dessus de la fidélité ignorante et calme de la simple religion. Dostoïevski reprend ainsi à son compte et enrichit un des traits caractéristiques de la religiosité russe, qui croit volontiers qu'il existe une communion dans le mal comme dans le bien, une communion des pécheurs comme il y a une communion des saints. En février 70, stimulé par ce fait divers, il réfléchit et conçoit son roman « Les démons ». En russe, c'est « Biesse ». Il conçoit aussi le projet d'un grand roman qui s'appellerait « La vie d'un grand pécheur ». En 70-72, il écrit Les démons. Et il va tenter d'y exprimer son épouvante. Son épouvante. Et l'un des prototypes l'un des prototypes de Stavrogin, le héros du roman, personnage principal, c'est évidemment Bakounine. Hein. Il a servi Bakounine de prototype à deux personnages de deux grands romans russes, Stavrogin dans Les Démons et Roudine dans le roman du même nom, Roudine de Tourguenev. Et dans son Stavrogin, il met aussi un peu un portrait d'un grand russe de l'époque qui s'appelle Herzen, qui a émigré à Londres et fondé, à partir des années 60, une grande revue d'opposition, un journal d'opposition qui s'appelle La Cloche, Kurlokol. Dans un article intitulé « La réaction en Allemagne », écrit en allemand et publié en 1842 dans une revue allemande, Bakounine écrivait « Laissez-nous nous confier à l'esprit éternel qui ne fait que détruire, que parce qu'il est une source inépuisable et éternellement créatrice de toute vie. La passion de la destruction est en même temps une passion créatrice. » Ça, c'est Bakounine. Par ailleurs, en mai 1949, Bakounine fut l'un des meneurs du soulèvement de Dresde. L'ancien officier d'artillerie qu'il était instruisait à l'art du combat les professeurs, musiciens, pharmaciens révoltés de Dresde et leur conseillait en sus de poser sur les murs de la ville la Madone de Raphaël et un tableau de Murillo exposé à la galerie royale de la ville face aux canons de l'armée prussienne pour les empêcher de tirer sur la ville. Hein ? La Madone de Raphaël pour empêcher les canons prussiens de tirer. Wolfson, un journaliste et dramaturge témoin du soulèvement, raconte. Citation de Wolfson. Poursuivi par la police, Bakounine frappa à ma porte et lui me demanda de le cacher pour la nuit. Ce que je fis. Le lendemain matin, en me quittant, Bakounine me dit « Tu m'as rendu service, c'est pourquoi je te préviens. Si notre camp gagne, ne me tombe pas sous la main. Je te pendrai ou te fusillerai. » C'est Lénine qui exécuta cet avertissement. Lénine chassa de Russie son maître, son ancien maître Plekhanov, philosophe marxiste, sans parler de ses amis Menchevik et SR qu'il fit fusiller. Dostoïevski fut par ailleurs horrifié par ce qu'il appela l'incendie de Paris lors de la Commune en mai 71. Il écrivit, alors chez Dostoïevski, il faut voir aussi que tout prend une grande ampleur. Il écrivit à Strakhov à ce moment-là, l'incendie de Paris est monstrueux. Mais cette folie ne leur semble monstrueuse ni à eux, ni à un très grand nombre de gens. Mais pour eux tous, c'est la beauté même. Donc, chez ces hommes nouveaux, l'idée esthétique s'est brouillée. Mais ce n'est pas tout. Dans Les Démons, l'écrivain atteint des couches bien plus profondes de la psyché nationale russe qu'il ne s'y attendait lui-même. Il montre que les demi-intellectuels à la Lénine, les démons comme Piotr Verkhovensky, l'un des héros des démons, se sont déjà emparés du peuple russe lui-même. Et au passage, il est le premier à suggérer le lien entre les chefs révolutionnaires et le milieu criminel. Et ce lien, nous le verrons à l'œuvre. Il faut savoir que lorsque Lénine fait créer la Tcheka, la police politique, disons, hein, en décembre 17, il nomme à sa tête un de ses compagnons, Dzerzhinsky, ancien noble polonais. Et Dzerzhinsky, en 1918, il manque d'hommes, les types. Il y a la guerre civile qui se profile à l'horizon. Et il va chercher, pour diriger les cellules de la Tcheka dans les provinces, dans les villes de province, ils vont recruter des droits communs, ou des zinzins, des schizophrènes. Complet, hein, des types complètement fondus. Bon. Donc Dostoïevski devine ça, hein, ça c'est l'avenir, hein, on est en 1918 là. Mais Dostoïevski dans Les Démons a compris ça. Hein. Et regardez par exemple dans le roman le personnage de Fiedka le bagnard, dans le roman Les Démons. Hein. Voilà. Hein. Et dans les romans, seuls les gens formés à la culture intellectuelle européenne tentent de s'opposer à ces types-là, quoi, hein, dans le roman lui-même. Et dans le roman, le héros Verkhovensky, Piotr, a réussi à entraîner tous les habitants de la ville dans une sorte de fête, un bal officiellement donné en l'honneur des gouvernantes de notre province. Et alors que la fête, pendant la nuit, bat son plein et va bon train, se répand le bruit que cette nuit-là, tout est permis, un bruit dans la ville. Hein, et la foule, ça, c'est dans le roman, évidemment. Hein. La foule, la ville vont plonger dans une sorte d'orgie, dans un chaos, qui se termineront par la mort de trois personnes, trois personnages du roman. Donc, par-dessus le Dieu unique des chrétiens, Piotr Wielchawiński, le chef de cette bacchanale nocturne, n'est-ce pas, par-dessus le Christ, Wielchawiński en appelle aux anciens dieux païens du sol, de la terre et du sang, aux dieux russes. Écoutez bien, aux dieux russes. Et Dostoïevski va tomber dans ce panneau-là du dieu russe. Il va nationaliser la religion. Hein. Et à ce titre, j'aurai peut-être le temps de développer ça tout à l'heure, il est un des pères fondateurs du nationalisme russe, y compris du nationalisme de l'Église orthodoxe, qui, vis-à-vis du dogme chrétien, est un péché, hein, est une déviation. Dans cette nuit sauvage, le carnaval s'empare de la ville. Elle est livrée en partie aux flammes des incendies, comme d'ailleurs ceux qui avaient ravagé Saint-Pétersbourg en juillet 62. Et coule un sang innocent, celui de la boiteuse dans le roman, et de son frère le capitaine Lebiatkin, sauvagement assassiné en plein incendie, et d'une autre femme, Lise, qui est littéralement écharpée par la foule. Ce carnaval entraîne le total anéantissement de toutes les lois morales sur lesquelles repose la société. Il la submerge. Durant des heures, le peuple franchit la ligne rouge. C'est en expression russe, on dit « Pelestupi au tchertu ». Il rompt les amarres. Ce qui nous rappellera peut-être les fêtes dionysiaques de la Grèce antique, les orgies sexuelles, n'est-ce pas ? Phénomène de psychose collective. Et il se trouve, figurez-vous, que j'ai un très bon collègue, chercheur russe, historien, qui a dû quitter la Russie il y a quelques années, de la ville de Tcheliabinsk, qui est une grande ville industrielle du sud de l'Oural. Ce professeur d'université, historien, a écrit un livre que j'ai lu attentivement, qui est la description de ce qui se passe dans les petites villes de province russe de l'Oural et de la Sibérie occidentale, juste en 17-18. Vous voyez, les premiers mois, là. Hein, juste après la révolution de 1917, enfin les deux révolutions de 1917, celle de février et celle d'octobre. Et il décrit le comportement des citadins de ces petites villes, écoutez bien, entre septembre et décembre 17. Donc au moment même où il n'y a plus de pouvoir central, c'est l'anarchie dans le pays, et Lénine et ses hommes n'ont pas encore eu le temps de remettre la main et de remettre dans le carcan de la discipline, mais de la sienne, hein, un peuple qu'il a lâché, dont il a lâché la bride lui-même. Et qu'est-ce qui se passe ? Exactement ce qu'a décrit Dostoïevski par anticipation dans son roman Les démons, c'est l'orgie. La foule dans les petites villes prend d'assaut. C'est fabuleux, c'est exactement la nuit du feu, la nuit de l'incendie dans les démons. La foule prend d'assaut les fabriques de vodka, enfin les distilleries, hein, voilà. Il y a des scènes c'est un travail de chercheur, d'historien, hein. Il y a des scènes ahurissantes. Ils éventrent les barriques, et puis c'est l'hiver, hein, on est en décembre de 1917, en novembre, il gèle. Alors, l'alcool coule. Il y a une scène comme ça dans une petite ville. Et puis, il y a là, juste en bas de la distillerie, il y a une sorte de petit étang gelé. Alors, ils n'ont pas le temps de tout boire. L'alcool coule et coule sur l'étang gelé. Et les autres qui arrivent un peu après la fête, ils vont lécher la vodka sur la glace. Sur la glace, vous voyez. Ce sont des scènes absolument ahurissantes et qui confirment la prémonition de Dostoïevski dans son roman, quoi. Hein, la bête immonde, les amarres sont rompues. La bête immonde, l'être humain, homme ou femme, hein, c'est une sale bête. Bon, ben là, il faut le tenir. Un homme, ça s'empêche, disait Camus. Hein. Bon, ben, par la loi. Hein, par la loi. La loi, c'est la civilisation. Et là, il n'y a plus de loi. Donc, hein, et c'est exactement ce qu'il a décrit dans cette nuit d'orgie affreuse, avec trois morts. Il n'y a que trois morts. Et cette scène-là, elle se répète dans plusieurs petites villes. C'est pas du tout un point précis, bon, un hasard, mais non, pas du tout. Hein. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de tsar, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. Tout l'État s'est volatilisé, donc tout est permis. Et voilà. Et c'est l'orgie. Je trouve fabuleux ce rapprochement. Quand j'ai découvert cette œuvre de mon collègue historien, il s'appelle Narski. Et lui aussi a une histoire, j'en parlais à mes hôtes hier soir. Il a quitté son pays il y a 4-5 ans. Et il a bien fait, parce que là, il aurait des ennuis, hein, maintenant. Et c'est un vrai chercheur, et il a maintenant un poste en Allemagne. Alors, dans ce chapitre, du roman intitulé La fête, hein, La fête, Dostoïevski suggère d'une part un lien entre les révolutionnaires matérialistes et nihilistes et la bouffonnerie, le grotesque, la mascarade, le carnaval, et d'autre part, il plonge dans la face la plus hideuse de la psyché historique et populaire russe. Cette tendance lourde du russe à tout tourner en dérision, à tout moquer, à tout piétiner, à jouer la comédie, à faire le pitre, le bouffon. On la retrouve, cette tendance lourde, dans les mascarades qu'organisait Ivan le Terrible, les mascarades, dans le personnage si répandu dans le peuple du saltimbanque, en russe c'est un mot que j'aime beaucoup, skamarokh, que l'on voit apparaître dans le beau film de Tarkovsky, André Roublev, consacré au grand peintre d'icônes André Roublev. À la française, c'est Roublev. Vous tapez Roublev, Tarkovsky, il faut que vous ayez vu ce film. Il est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Et on voit apparaître dans le film le personnage du skamarokh. On la voit aussi, cette carnavalesque bouffonnerie, dans la comédie surjouée par les petits princes russes vaincus. Il surjoue l'amour pour le Khan Tatar. Les princes russes ont tous été vaincus en 1240 par l'invasion mongole. Alors après, ils vont jouer, ils vont faire de la lèche, n'est-ce pas ? Il faut survivre. Donc ils vont lécher les bottes, et peut-être autre chose, du Khan Tatar qui est devenu le maître. On la voit aussi, cette bouffonnerie, dans les défilés anti-religieux organisés par Pierre le Grand. Pierre le Grand organise de gigantesques défilés, des bouffonneries carnavalesques à travers la capitale toute neuve, dont il prend la tête, ce qui scandalise le bon petit peuple russe de l'époque. On la voit dans même les villages de Potemkin de Catherine II, dans le généralissime Souvorov, quand même, Souvorov, qui imitait le cri du coq. Dans les orgies organisées et orchestrées par Staline dans sa datcha et au Kremlin. Dans la grossièreté cynique, accompagnée de gros rires sardoniques des bourreaux de Staline, lorsque, au fond des geôles, craquaient les os de leurs victimes. Et pensons aussi à tous ces imposteurs dans l'histoire russe, les samozvansi, qui apparaissent régulièrement dans l'histoire. Or, l'imposteur est un acteur qui se glisse dans une personnalité qui n'est pas la sienne. Le plus connu d'entre eux, c'est le faux Dimitri Otrepiev, un moine défroqué qui prend le pouvoir en 1605 et qui devient tsar. Il devient tsar pendant un an, le type, couronné à Moscou. Voilà. Alors, pensons aussi, ça c'est pas inintéressant, aux dirigeants révolutionnaires de 1917. Ils s'avançaient tous sous un pseudonyme. C'est pas innocent, ça, prendre un pseudonyme. Lénine, c'est pas son nom, il s'appelait Oulianov. Staline, c'est pas son nom, il s'appelait Djougachvili. Trotsky, c'est Bronstein. Gorky, l'écrivain pourtant, mais qui va rejoindre la révolution, c'est Peshkov. Zinoviev, de son vrai nom, c'est Radomilski, n'est-ce pas? Kamenev, c'est la plupart des grands dirigeants là que je vous cite, c'était Rosenfeld. Le grand écrivain prix Nobel de littérature en 1933, Ivan Bounine, considérait que, je cite Bounine, qui était un lucide, lui. L'un des traits les plus caractéristiques des révolutions, c'est la folle soif de jeu, de tartufferie, de pose, de pitrerie. Dans l'homme, le singe se réveille. Et un des éléments moteurs de la mise en branle d'un immense concours de peuple dans les révolutions russes de 1905, de février et octobre 1917, c'est le puissant désir de jouer en un clin d'œil, comme par magie, un autre rôle que le sien, de vivre une autre vie que la sienne, de moujik devenir seigneur, d'ouvrier devenir patron, patron capitaliste, de prendre la place des anciens maîtres, de sortir de la fange et de devenir prince. C'est exactement le proverbe russe « iz gryazi, dav knyazi ». Lénine avait parfaitement saisi ce trait dominant de la psychologie des foules russes, fondée sur une haine profonde du peuple pour les élites et expliquée par la misère noire dans laquelle vivait une bonne partie du peuple. La révolution, c'est un grandiose jeu de coquins, ou comme au théâtre, aujourd'hui gueux, demain seigneur. Un philosophe, Fyodor Stipoun, haut fonctionnaire du gouvernement provisoire de Kerensky, donc le gouvernement d'après la première grande révolution, en mission sur le front, remarqua chez les soldats le puissant désir de fuir leur vie, de la remplacer par le rêve, le jeu, l'invention. Dostoïevski avait lui aussi remarqué cela. Il écrivait, je cite Dostoïevski, « Les petites gens, et même les laboureurs, aiment dans les livres ce qui les éloigne le plus de la réalité qui est la leur, presque toujours très pénible, monotone, et ce qui leur montre la possibilité d'un autre monde qui ne ressemble en rien à celui qui les entoure. » Cette aspiration populaire à une rapide ascension sociale est peut-être l'une des explications de la passion généralisée du théâtre qui caractérisa les premières années révolutionnaires en Russie, le désir secret de prendre la place des élites. Pour Dostoïevski, ces bouffonneries sanglantes ne peuvent signifier qu'une seule chose. La Russie, les Russes sont aux mains du diable et de ses suppôts. Le mal s'est emparé de l'âme russe. Le roman « Les démons » n'est rien d'autre que le tableau de la Russie plongé dans la païennerie, la chiennerie, dans ses forces brutes qui remontent d'avant la christianisation. C'est le roman d'un pays abandonné de Dieu, pour Dostoïevski, où la vérité et le bien sont impuissants. Dans ce roman, Dostoïevski, auteur, prend d'ailleurs le contre-pied du polémiste, car ce roman n'est au fond rien d'autre qu'une prophétie biblique qui, comme le faisaient les prophètes de l'Ancien Testament, maudissant et fustigeant, tente d'obliger son peuple à devenir non pas un peuple théophore porteur de Dieu, mais un peuple élu de Dieu, soumis aux lois que lui donne le Dieu supranational des chrétiens, un peuple capable de vivre selon les commandements de Dieu. Ce tableau, c'est celui du cauchemar de l'écrivain, de sa hantise. Dostoïevski sait de quoi est capable la plèbe russe lorsqu'elle se déchaîne. Il n'a aucune illusion. Souvenez-vous, son père a été assassiné par les Moujiks. Il connaît aussi la phrase de Pouchkine. Pouchkine aussi n'avait pas d'illusion sur le peuple russe, lui. Pouchkine disait, craignait la révolte du peuple, impitoyable et absurde. Il écrit, Dostoïevski, dans les carnets préparatoires du roman, il écrit ceci, écoutez bien, la lucidité est toujours là, c'est quand même le grand génie qui parle. « Je crains la mise en branle de la partie de notre peuple qu'avait déjà soulevée Stenka Razine. Razine, c'est le chef d'une gigantesque révolte populaire en 1670-1671. Et cette révolte, il y en a une par siècle dans l'histoire russe, 1670-1770 d'ailleurs, ce sera Pougatchev. Et cette révolte de Razine, elle embrase une immense région, 3 ou 4 fois la France, si vous voulez, en territoire. Et les types, l'armée paysanne, supprime tout ce qui a les mains blanches, tout ce qui a les mains non calleuses, voyez, hein, sur son passage. Et ça, il emploie d'ailleurs un drôle d'adjectif, il le crée lui-même, ça, il en a peur, Dostoïevski. Il en a peur et il est attiré. Il a senti l'apparition de ce nouveau type d'homme, aussi également, qu'on va voir confirmé dans l'arrivée de Lénine, qui méprise les gens du savoir, les livres, les intellectuels. Lénine haïssait les intellectuels. Une citation de Lénine, « Les forces intellectuelles, en 1919, des ouvriers et des paysans grandissent et se renforcent dans la lutte pour le renversement de la bourgeoisie et de ses suppôts. Ces misérables petits intellos, en russe ça donne « intelligentikov » chez Lénine, laquais du capitalisme qui s'imaginent qu'ils sont le cerveau de la nation. Et en réalité, ils n'en sont pas le cerveau, mais la merde. Gavno en russe. » Et Lénine avait une phrase pour qualifier Dostoïevski qu'il détestait. Il disait en français, je le traduis, l'archi-ordurier Dostoïevski. En russe, c'est archi-skvierny Dostoïevski. Alors, je ne sais pas si vous m'accordez encore 5 minutes, je voudrais développer ce thème de la faille intérieure chez Dostoïevski. J'y vais ou pas?
Oui.
Oui, bon. Je crois qu'il faut évoquer maintenant ce que j'appellerais la faille de Dostoïevski. C'est sa sympathie secrète, inavouable et inavouée pour les révolutionnaires. Dostoïevski est à la fois hérissé et affolé par la révolution qui monte et fasciné par elle. On va voir un peu en détail les deux pôles de cette faille. Premier pôle, la prémonition devant ce qui va venir, devant l'orgie révolutionnaire à venir. Et là, je vous l'ai déjà dit ça, mais il développe, Dostoïevski, parallèlement, un nouveau thème qui est que le mouvement révolutionnaire, pour lui, c'est une école de folie. Il y a les cauchemars de Raskolnikov, le diable d'Ivan, les suicides de Svidrigaïlov dans l'œuvre. Il estime que la révolution a partie liée avec la folie. Et il devine, ça je vous l'ai déjà dit, donc il fait aussi un lien qui est visible dans la nuit folle des démons, entre révolutionnaire et folie. Et puis, il y a autre chose. C'est un peu nous qui le disons. C'est les analystes du XXe siècle, après Freud. Quand même, il y a quelque chose de troublant dans cette œuvre, qui est que, dans les grands romans, on se demande s'il n'y a pas Et ça, il ne pouvait pas le dire, hein, ni le voir lui-même d'ailleurs. Mais ici, il n'y a pas une homosexualité latente dans ces personnages. Parce que, par exemple, dans les grands romans, il y a beaucoup de scènes où un homme déclare à un autre homme son amour, son admiration, son dévouement absolu. Dans Les Démons, toujours le même roman, Chatov, l'un des héros, qui est d'ailleurs souvent la voix de Dostoïevski lui-même. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il ne faut pas chercher la voix de Dostoïevski dans les grands personnages. Souvent, il la planque dans les personnages secondaires. Bon, Chatov déclare à Stavrogin, le héros principal, je cite, qu'il l'aime et qu'il baisera la trace de ses pas. Verhovensky, autre héros du roman, dit au même Stavrogin, vous êtes beau, vous êtes mon idole, vous êtes le chef, le soleil, et moi je ne suis qu'un ver de terre. Et très curieusement, la dernière lettre que Bakounine écrivit à Netchaïev, parce que Netchaïev et Bakounine se sont rencontrés, Bakounine a soutenu Netchaïev, il a même été fasciné par Netchaïev. Et la dernière lettre que Bakounine écrit à Netchaïev, c'est une lettre de 40 pages environ, hein, quand même, hein, qui date du 2 juin 1870. Elle respire aussi la déception amoureuse. Bakounine a compris qu'il avait affaire à un escroc, à un imposteur, mais trop tard, parce qu'il a aimé Netchaïev. Donc, là, il y a quelque chose de trouble qui méritera un jour, peut-être, ou qui a déjà été creusé. Moi, je n'ai pas pu tout lire. Hein. J'ai pas lu Julia Kristeva sur Dostoïevski. Elle a peut-être creusé le thème. C'est son truc à elle. Hein. Bon. Voilà. Alors, ça, c'est le pôle lucidité, prémonition. Et le pôle, maintenant, sympathie pour la révolution. J'essaie de résumer. Premièrement, les révolutionnaires ont un charme au lieu de Dostoïevski parce qu'ils sont antimatérialistes. Et c'est-à-dire que pour lui, ils rêvent d'idéal. Et pour lui, premièrement, donc ils sont anti-bourgeois. Et Dostoïevski, au fond, déteste l'esprit bourgeois. Il déteste même le confort bourgeois, le bien-être bourgeois, une sorte d'hédonisme tranquille. Ça, c'est pas son truc. Et puis deuxièmement, et là on retrouve le nationalisme de Dostoïevski, ils sont russes. Et en tant que russes, eh ben, ils sont à lui, quoi. Ils sont comme lui, ces révolutionnaires. Et vous voyez, hein, il y a là aussi une complicité sur le terrain tout simplement du nationalisme. Et voilà. Alors il y a quand même autre chose. Il y a quand même autre chose. Je vais vous donner la citation. Il y a quand même autre chose qui est encore plus troublant et qui nous renvoie au Dostoïevski des années 40. Vous vous souvenez, le fourriériste idéaliste. Il avoue, et il l'avoue lui-même, hein, c'est pas nous qui interprétons. Il avoue dans une discussion, je retrouve la source. Alors c'est l'éditeur Souvarine. Oui, c'est ça. Alors il y a un attentat, les faits d'abord. Le 17 février 1880. Des types de la volonté du peuple, un groupuscule révolutionnaire ultra, font exploser de la dynamite sous la salle à manger où doit déjeuner le tsar. Hein ? Donc, voilà, 1880, c'est Alexandre II. 11 soldats sont tués, donc des types du peuple, hein, d'anciens paysans, tous revenus récemment de la guerre russo-turque. 56 personnes sont blessées. Le tsar, en retard, n'est pas touché. Bon. Alors, ça, c'est les faits. Et puis, apprenant les faits, Dostoïevski discute. Donc, on est en 1880. Hein, il a 60 ans, hein, 59 ans. Bon, il a toute son œuvre derrière lui, pratiquement. Il est en train de finir les frères Karamazov. Il discute avec un éditeur de droite. Hein, bon. Et il lui dit... Il dit à Souvarine, « Supposez que dans la rue, nous remarquions un individu qui fait le guet. Un autre l'approche. » Et nous entendons dire, le palais va sauter, j'ai déclenché le mécanisme. Que ferons-nous? Irons-nous au palais prévenir, ou à la police, pour faire arrêter cet individu? Iriez-vous? Demande Dostoïevski à Souvarine. Souvarine répond, bizarrement, non. Et Dostoïevski, en écho, répond, moi non plus. Pourquoi? C'est toujours Dostoïevski qui parle. C'est effrayant, dit Dostoïevski. Hein? Voilà. C'est intéressant, ça. L'un des écrivains qui a vu ce qui allait se passer à partir de 1917, nous le savons maintenant. Voilà. Et il n'ira pas dénoncer un attentat. Attentat qui, comme toujours dans tous les attentats, ne vise pas les princes, les chefs, etc., mais le simple peuple. Hein, Ce que n'ont pas compris les barbus en 2015, hein, c'est que ça ne touchait pas du tout au système, ça touche les simples gens. Et, voilà, hein, des gens comme eux d'ailleurs, hein, et même souvent plus bas dans l'échelle sociale qu'eux-mêmes, parce que ces révolutionnaires terroristes sont des étudiants, sont des gens qui ont lu et qui lisent. Voilà, donc il y a là quand même quelque chose de très troublant, et je termine enfin, parce qu'il faut apporter la fin de la vie de Dostoïevski, en 1878. Dostoïevski est au sommet de la gloire. Il est élu à l'Académie des sciences. En juillet, à Staraya Russa, dans un petit village où le couple a pu enfin acheter une jolie maison de campagne, il commence la rédaction des Frères Karamazov, qui paraîtront à partir de janvier 1879. La grande question que pose le roman est au fond celle qui hanta Dostoïevski toute sa vie durant, celle de la culpabilité. C'est Zosima, le starets. Le starets, ce n'est pas un chef d'abbaye, hein, ce n'est pas un supérieur, c'est un simple moine, mais qui a une aura sensationnelle par sa sagesse, n'est-ce pas, et qui draine vers lui des foules absolument considérables. Ça, c'est du vrai, je veux dire, en fin 19e, début 20e, des foules désorientées. Et Zosima, le personnage du roman, dit devant son frère mourant, « Nous sommes tous coupables en tout et pour tous les hommes ». Ça, c'est un des messages principaux du roman. En avril 1880, à Moscou, a lieu l'inauguration d'un monument à Pouchkine, écrivain que Dostoïevski vénère depuis toujours et par-dessus tout. Dostoïevski y prononce un discours d'hommage au poète dans la salle comble de l'Assemblée de la noblesse. C'est un triomphe. Tout le monde s'embrasse. Le 28 janvier 1881, à 20h38, Dostoïevski meurt d'hémorragie interne. 3 jours durant, des services religieux funèbres sont célébrés dans l'appartement mortuaire, dans les églises et les écoles, à l'université. Le 31 janvier, 50 000 personnes, 72 délégations, 15 chorales accompagnent le cercueil jusqu'à la laure de Saint-Alexandre Nevski, à Saint-Pétersbourg. Le cortège dure plus de 3 heures. Le 1er février, Dostoïevski est inhumé au cimetière de Tirvine, près de la tombe du poète Joukovski. Anna Grigorievna, sa veuve, a 35 ans. Elle est née en 1846, je vous l'ai dit. Elle s'est consacrée à son œuvre. Elle a fondé une école à Staraya Russa. Elle a rédigé ses souvenirs, qui furent publiés en 1930. Et elle mourut de la fièvre paludéenne en Crimée, à Yalta, en 1918. La gloire universelle viendra bien plus tard, après la mort de Dostoïevski. Il a été lu et commenté par Nietzsche, Freud, Thomas Mann, Albert Camus, William Faulkner, Hugo von Hofmannsthal. Une petite anecdote amusante. L'ex-amante de Dostoïevski dans les années 61-66, Apollinaria Souslova, a épousé, je vous l'ai déjà dit, en 1880, un écrivain et philosophe religieux des années 1885-1919, Vassili Rozanov, qui est mort en 1919. Il avait 24 ans, elle en avait 40. Et les mauvaises langues, dont je suis, disent que Souslova en a fait baver autant à Rozanov qu'à Dostoïevski auparavant. 7 ans plus tard, en 1887, Rozanov, fourbu et anéanti par cette furie, demanda le divorce. Apollinaria le lui refusa pendant 20 ans. Elle mourut en 1918, la même année que l'épouse de Dostoïevski. Ainsi, et ce sera le mot de la fin de cette conférence, dans la tête de Dostoïevski cohabite un nationalisme ardent, un monarchisme légitimisme convaincu, une sympathie bienveillance universelle, accompagnée d'une compassion active pour les pauvres, un individualisme créatif doublé d'une défense systématique du libre-arbitre, qui font de lui un libéral, un rejet de l'idéologie progressiste, mais pas de l'instruction primaire, secondaire et supérieure, et un amour inconditionnel du Christ, ce qui fit écrire à André Gide « Dostoïevski reste celui dont on ne sait comment se servir ». Je vous remercie pour votre attention.
Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes stupéfaits, impressionnés et très intéressés. Donc, vous avez compris que M. Philippe Comte reviendra l'année prochaine, bien évidemment. Donc, vous pouvez poser quelques questions si vous le souhaitez. Mais après ce déluge d'informations, il va falloir faire le tri. Voilà.
Voilà, il faut le temps de digérer tout cela. Je répéterai les questions pour qu'elles soient enregistrées, parce que sinon on ne les entend pas, si j'ai bien compris dans le système. Allez, quelques questions là, peut-être, comme ça, à brûle-pourpoint, qui vous viennent. C'est vrai que c'était dense, hein. Je suis allé un peu vite, peut-être, mais c'était très dense.
Oui,
Oui, monsieur?
vous
Allez.
avez parlé de Dostoïevski avec à un moment donné le fait que l'homme qui a péché et surtout de savoir qu'il a
Oui.
qu'on a péché,
Oui.
c'est pas finalement une forme pour lui de s'absoudre, voire même de se prendre pour Dieu.
Non, alors ça, Dostoïevski risquait pas de se prendre pour Dieu. C'est pas du tout dans sa démarche, même pendant toutes ces décennies. Je crois que surtout que Dostoïevski se savait un grand pécheur. Et il se savait parfaitement, en toute lucidité, traversé par toutes ses passions, par tous ses vices. Et il était à ce titre un des membres de cette humanité pécheresse qui savait qu'il faisait le mal, qui savait qu'elle fait le mal et qui va tenter de renaître de ses cendres et de sortir de cette fange du mal. Mais non, il s'est jamais pris pour Dieu. Et puis même, mais oh, surtout qu'il a beaucoup.
Reconnaissant que j'ai péché quelque part.
Non. Je crois pas. Non, non, c'est pas du tout ça dans sa mentalité, dans sa manière de voir les choses. Non, 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 pas du tout. Au contraire, il a terminé son grand roman en disant nous sommes tous coupables et de tout. Hein. Nous sommes tous responsables de tout et tous coupables de tout. Donc une sorte de justement une manière, elle aussi d'ailleurs un peu prémonitoire, de prendre en compte le fait que chaque humain sur cette terre est aussi responsable des autres humains et de la terre elle-même. Bon, ce qui sonne, avouons-le, qu'on en pense qu'on en veut, mais ce qui sonne de façon assez contemporaine quand même à nos oreilles. Hein. Ah, oui, monsieur? Oui. Alors ça, le Dostoïevski, il serait poutiniste en ce moment. Hein. Dostoïevski, pour lui, je pense que il serait là, il dirait, il n'y a pas d'Ukraine, ça n'existe pas l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est que ça, l'Ukraine? C'est le monde russe. Il n'y a pas de référence dans les discours de Poutine à Dostoïevski. Entre parenthèses, il ne faut pas prêter à Poutine plus de culture qu'il n'en a. J'ai un ami qui a produit un bon petit bouquin qui s'appelle Dans la tête de Poutine, de Vladimir Poutine, qui est un bon petit livre que j'ai lu, puis je connais Michel Eltchaninov. Et je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas entamer la discussion sur ce terrain-là, je n'avais pas le temps, on s'était croisé une fois dans un café tout près de la. Enfin, dans Paris. Mais je trouve que Michel a cette un peu tendance à prêter à Poutine des lectures qu'il n'a pas eues, en fait. Vous savez, Poutine, c'est un étudiant d'une fac de droit soviétique des années 70. Bon, à la fac de droit, à ce moment-là, on le sait, il lisait très peu. Puis d'ailleurs, il n'est pas le seul, il y a des dirigeants. François Hollande lisait très peu, il l'a reconnu. Hein. Bon, alors que Jacques Chirac, Georges Pompidou étaient de grands lecteurs. Bon, pas lui. Et Poutine, il lisait peu. Mais petit à petit, à partir de 2004-2005, il a des conseillers, des voix qui lui glissent des petites fiches, qui lui glissent des idées. Le rôle de Patrouchev, par exemple, ne doit pas être sous-estimé. Et ces idées, c'est un corpus. Certaines de ces idées reprennent la démarche dostoïevskienne de base, quoi, hein, qui est que le peuple russe est porteur de valeurs. Hein. Actuellement, le discours de la propagande du Kremlin, c'est que le peuple russe est porteur de valeurs. Je dois expliquer, je crois, dans la conférence précédente, et des valeurs morales qu'a abandonné complètement l'Occident, livré au stupre et à la fornication. Oui.
C'est pourtant Dostoïevski qui a fait référence au souterrain de Freud,
Oui.
les concepts que
Oui. Tout à fait. Absolument. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de développer ça, j'avais deux, trois pages là-dessus, mais j'ai dû les sabrer. Le souterrain, c'est une de ses œuvres des années 60, 64, si je me souviens bien. Ça s'appelle Les carnets du sous-sol, les carnets du souterrain, ça dépend de la traduction. Hein. Et ça, c'est une œuvre à lire, mais en sachant qu'en fait, c'est un manifeste anti-lumière, anti-lumière occidentale, française. Hein. C'est le manifeste d'un individu qui n'est pas Dostoïevski, attention. Hein. Parce que le héros, qui est un petit fonctionnaire scrofuleux et géniard dans son semi-souterrain de Saint-Pétersbourg, hein, c'est pas lui, c'est pas Dostoïevski, parce que sauf que ce fonctionnaire-là se lance dans une diatribe contre la science, et contre la connaissance scientifique, qui n'est pas du tout celle de Dostoïevski, n'a jamais attaqué la science. Hein. Il n'aimait pas beaucoup l'Europe occidentale, mais la science, il reconnaissait que c'était incontournable. Et donc, c'est vraiment. Là, il campe un personnage qui est aussi un des traits de la psyché russe profonde, d'ailleurs, hein, au fond. Hein. Quelque chose de petit, de mesquin, de jaloux. On retrouve ça dans certaines phrases de Raskolnikov dans le Crime et Châtiment. Hein. Il y a un moment donné dans le roman du Crime et Châtiment où Raskolnikov dit est-ce que je suis capable de faire cela, donc de tuer la vieille pour avoir de l'argent et pour aider ma sœur. Est-ce que je suis capable ou est-ce que je suis un ver de terre? Vous voyez, et ça, on est dans la psychologie actuelle de Poutine. Est-ce que je suis capable de vaincre l'Ukraine, de l'écraser, peut-être même d'utiliser la bombe, ou pas? Ou est-ce que je suis un ver de terre? Hein, et ça, c'est d'un des côtés les plus dangereux, je trouve, de la situation actuelle, c'est que on a affaire à un petit homme, un homme petit, qui a un complexe d'infériorité à surcompenser. Et ça, c'est très dangereux. Alors, il n'est pas seul à décider, mais enfin. Ouais. Mais ça nous rappelle la psyché russe, quoi.
Cette lucidité anti-lumière, elle est quand même un peu contradictoire.
Oui.
Elle lumière quand même les pulsions, les souterrains, et elle s'oppose aux lumières.
Donc, oui. Oui.
Oui,
bien sûr. Mais en même temps, il est.
Il dénonce dans notre civilisation occidentale, alors même qu'ils en sont nourris.
Oui, tout à fait, mais on tue le père. Hein, c'est aussi oedipien, on tue le père. La Russie se sait la fille cadette de la civilisation européenne, de même que la civilisation européenne se sait la fille cadette de la civilisation grecque et romaine. De même que l'Empire romain, ça s'est magnifiquement développé par Rémi Brague dans La Voix romaine, l'Empire romain savait sa dette vis-à-vis de la culture grecque. Hein, l'Europe, la définition de l'Europe, c'est finalement ça. C'est je sais que je suis second, que j'ai une dette vis-à-vis de plus haut et plus ancien que moi. Et Poutine, j'en sais rien s'il le sait, moi je ne suis pas dans sa tête, mais ce qui est caractéristique de l'élite russe, c'est qu'elle sait sa dette et ça la gasse, cette dette. Elle veut en fait la rejeter et elle veut dire non, moi je ne vous dois rien. C'est comme un fils qui dit à son père, t'es un vieux con, hein, et moi c'est moi. Hein, il y a de cela dans cette. Je pense que ce que vous dites là est intéressant. Il y a de cela. Mais attention, Dostoïevski décrit un personnage dans les carnets du sous-sol. Voilà, c'est les carnets du sous-sol, hein, qui n'est pas lui. Hein, je le répète. Hein, c'est vraiment un des côtés de la psyché russe la plus mesquine, la plus petite, mielke, on dit en russe. Hein, voyez. Il y a encore d'autres questions. Oui, monsieur, au fond. Ah oui, oui, oui.
Pas d'autres bien, questions. Bien, on applaudit à nouveau notre ami Philippe Comte.
Merci à vous.
Et en avant pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Et maintenant, vous avez su que le couple infernal Kersaudy-Comte ne se sépare jamais. Voilà. Merci.